Marseille-Manas, sans détour.
Et pourquoi Manas? Enfin,
C'est mon épouse, ma femme avait un contrat de travail ici,
ouais.
donc je l'ai suivi. Moi, je sortais d'expériences marseillaises et africaines, en fait.
Ok.
On était en 84, donc.
Ouais.
Et puis, mon épouse est jeune médecin à l'époque, qui vient d'avoir son diplôme, et donc elle cherche un job, et on l'envoie ici, dans les dispensaires de l'époque. Donc la Guyane vit sa déconcentration, son décentralisation. Donc on est en 86, 87. Donc les dispensaires se mettent en place, et ils ont des postes dans les dispensaires dans les communes un peu reculées, on va le dire comme ça. Et donc le choix, c'était Camopi ou Manas, je crois. Donc on choisit Manas et on se retrouve ici pour un contrat de 2 ans, il y a 30 ans. Et alors, donc là on est en 87, la commune c'est 3000 habitants. Donc la guerre du Suriname vient d'éclater. 10 000 réfugiés sont installés dans des camps, dont 2 et 2 300 sur la commune de Manas. Et ces camps qui vont s'ouvrir quelques années après, donc la population va doubler en début des années 90. Donc ça, c'est toute l'histoire de Manas, etc. Donc effectivement, c'est un pulse, une espèce de dynamique de société, de population, de migration, de un tas de choses. Et entre autres, de développement des expressions artistiques. Entre autres. Et les collèges se montent. Moi, je prends un poste de prof d'art plastique. Et là, moi, j'expérimente des pédagogies en art plastique sur justement les cultures, à partir des cultures, en ancrant les cultures vernaculaires, villageoises, à partir de tous ces artistes, artisans, mais qui se travaillent très tôt, très vite. Alors moi, je suis plasticien de formation, donc moi, j'ai une œuvre. Dès le début, je commence à œuvrer en forêt, sur les chantiers de taille de pirogue, sur les chantiers de construction, en forêt de débitage avec les bûcherons, les scieurs. Le café est en train de...
Ouais.
Tu prends les bruits un peu, la
Ouais.
cuillère qui touille, tout ça.
Justement, ouais, ça c'est
Et donc, il s'avère vite que ces tailleurs de bois, là, ces constructeurs de pirogues, c'est des prodigieux artistes, plasticiens. Donc, des djoukas, en fait. Qui sont installés à Manas depuis les années 60, 70. C'est un peu compliqué,
Ouais.
l'histoire des migrations, des circulations des peuples. Donc, alors, parmi les communautés de Guyane et du Suriname, il y a les communautés marones, qui sont surtout surinamaises, qui historiquement se retrouvent pour un petit groupe d'entre elles, c'est-à-dire les Aloukou Boni, se retrouvent en France. C'est compliqué l'histoire des guerres marones, hein, quand on est au 17e, 18e, avec les traités de paix 1760 pour les Djoukas Saamaka. Donc c'est des groupes qui se constituent au fond des bois, des groupes de marrons, qui sont en guerre contre l'autorité coloniale pendant un siècle, et reconnus libres, certainement les premiers peuples libres d'Amérique, 1760, avant les États-Unis, et surtout le premier peuple noir, libre, reconnu indépendant. Et donc il y a eux, mais d'autres continuent de marronner, se rentrent en guerre contre ces reconnus indépendants qui doivent, dans les contrats et dans les statuts signés avec l'autorité coloniale, reconduire les marrons qui seraient retrouvés, les fugitifs.
Okay.
Donc les Aloukous qui marronnent, eux, fin 18e, après la reconnaissance des indépendances Saramaka et Djouka, ils ouvrent 30 ans de guerre Aloukou-Hollande, qui se retrouvent confrontés aussi aux Djoukas, qui eux verrouillent le Tapanahoni, un des fleuves fondateurs du Maroni. Donc il y a toute une migration comme ça. Ils vont descendre dans le Grand Sud, retrouver l'Oyapock, même, bref. Donc voilà pour. Ensuite, les Saramaka arrivent fin 19e pour canoter. Donc on trouve de l'or, hein, 1800 et quelques, 1860. On trouve de l'or en Guyane, donc c'est l'afflux, le roche aurifère. Manas à l'époque fait 5 000 habitants. Il y a 5 000 personnes sur le fleuve de la Manas, il n'y a plus personne maintenant. Jusqu'à Sahul, c'est des centaines et des centaines, c'est 2 000, 3 000. Donc les Djoukas sont établis sur le Tapanoni depuis 1750. Après, il y a toute une frange de Djoukas, je ne connais pas bien cette histoire, qui arrive sur la Kotika, du côté de Mongo, donc sur la côte. Et c'est eux qui vont rentrer en guerre récemment, 1985, avec Brunswick. Cette espèce de guérillero, ce jungle commando qui va faire une espèce de guerre civile contre l'autorité surinamaise, 85, 86, jusqu'à quand on suit en 90. Donc le raccourci, les Saramaka, donc fin 19e pour reprendre, viennent canoter sur la Mana, sur le Kourou, je ne sais pas, en tout cas jusque sur l'Oyapok, la Prouac, bien sûr, Regina. Donc ils s'installent, communauté Saramaka qui a 150 ans maintenant installée en Guyane. Et c'est Djouka Kotika qui fuit la guerre et il y a un massacre célèbre en 1900, là on est 85, hein, je fais des sauts comme ça. Hein. Donc moi j'arrive à cette époque-là, les camps sont encore là, vont être démantelés et des personnes vont venir s'installer en bord de route. Moi je suis jeune, j'ai 30 ans, jeune plasticien, jeune prof. Je suis complètement investi de cette vie rurale, forêt, fleuve, estuaire, dans les villages avec les personnes. Donc j'ai beaucoup d'amis, de copains, on se fréquente. Moi, j'ai une belle vie là, pendant 10 ans. Non, c'est bien. Donc c'est là qu'il y a ce contact donc, très rural, au fond des bois, dans les abatis, à la chasse, à la pêche, avec tout le monde. Bon, ça va durer quelques temps, le bonheur. Et en même temps, j'ai 9 plastiques. Donc rapidement, je m'installe dans un atelier à Mana, une vieille maison. Donc je me retrouve avec ces fondements Nengue, noir-marron d'un côté. Kalinia, je travaille de très près avec les potières aussi. La céramique Kalinia. J'ai toute une œuvre de ces temps-là. Plus ou moins aboutie, plus ou moins éphémère, comme ça. Qui émerge. Et en étant très préoccupé et très intéressé par la pratique des autres aussi. Donc ce sont des œuvres collaboratives la plupart du temps. Où je mets en jeu, où je fais rentrer les savoir-faire, les pratiques des autres. Donc chercheur d'art apparaît en 94. Okay. 1994, chercheur d'art se met en place. 98, on investit le château d'If à Marseille. Ouais. Marron, un art de la fugue. Donc 150e d'abolition de l'esclavage, on nous invite là-bas. Donc on investit, ça dure 6 mois, on reste plus de 6 mois là-bas. On investit le château d'If. Donc on recouvre cette histoire de Dantès, cette histoire du comte de Monte Cristo, on la recouvre avec l'histoire des marrons. Et donc, si on fait le compte, il y a 120 actions en maintenant 22 ans qui sont montées. Donc principalement des expos, mais aussi des ateliers de pratique artistique, des résidences d'artistes, des éditions, des publications, voilà, toutes ces choses-là. Et Karma, voilà. Le centre d'art, ouais. Principalement une salle des collections de 100 mètres carrés à l'étage qui reçoit 1000, on doit être à 2000 pièces maintenant. 2000 pièces à 80% issues des cultures de l'Ouest. En bas, une salle d'expo de 150 mètres carrés. Ce carbet où nous sommes maintenant, ce carbet de pratique artistique où on reçoit les artistes en résidence et les scolaires. Donc quand on arrive à Mana, et qu'on arrive à trouver le Karma, le centre d'art, avec très très peu de communication, aussi bien visuelle, de bord de route, etc. Bref, on est accueilli dans un jardin. Alors ce jardin, en ce moment on est en train d'expérimenter un jardin précolombien pour annoncer la prochaine expo d'ici un an. Donc la prochaine expo, la saison 2, là on est en saison 1, on va visiter l'expo et je te montrerai tout ça. Et donc l'idée, l'objet, on travaille avec des chercheurs du CNRS qui ont travaillé sur les récits des voyageurs 16e, 17e, qui arrivent sur les côtes des Guyanes, qui sont la côte sauvage à l'époque. Ce sont des Hollandais, des Français, des Anglais, des marchands, des commerçants qui ont affrété un bateau, une flotte, pour aller faire du commerce. La région est verrouillée au nord par les Espagnols, Venezuela et toutes les îles... les îles espagnoles, au sud par les Portugais au Brésil. Et donc ces côtes-là, il ne se passe encore rien, il n'y a pas eu d'acte de colonisation sur les trois Guyanes. Les bateaux mouillent au large. Là-dedans, il y a des commerçants, des matelots, tu as des marchands. Et en face, les Amérindiens. Et jusque-là, tout va bien. Donc on est en précolonial, on est en 1550, 1560. Et ça va durer jusqu'en 1620, 1630, là où on décide de coloniser, d'implanter des colons, de faire des cultures qui canne à sucre et autres cultures tropicales. Et là, tout va basculer. Donc cette période-là, On a des récits, une quinzaine de récits de navigateurs, beaucoup de gravures, d'images, et un très beau livre édité par Gérard Collomb du CNRS, traduit donc des trois langues, hein, anglais, hollandais et français, qui raconte la rencontre, qui parle de ces hommes, de ces cultures, de ces milieux, de ces côtes, de cette faune, de cette flore, des habitudes, enfin on peut imaginer. Et nous, on est invités, nous les plasticiens, de chercheurs d'art, les gens avec qui on travaille, invités à réfléchir sur tout ça et parler de l'exotisme, parler de l'autre, parler d'altérité, parler du merveilleux, du fabuleux, des intérêts des uns et des autres. Donc alors voilà, ça c'est pour la saison 2 sur laquelle on travaille. On a quand même pas mal commencé à produire. Et entre autres, ce jardin, on fait pousser d'abord pour ça, ça va prendre un peu le temps, 6 mois, 1 an. Pour ça, on s'y prend à l'avance, ces papayers, pour faire de l'ombre. Parce qu'ici, on a quand même 4 mois de saison sèche, de soleil, tout brûle. On est sur des sables blancs, donc il faut amender ces sables. Alors là, on a convoqué au mois de juin, lors de l'événement national Rendez-vous au Jardin, on a convoqué qui les vertueux jardiniers écologistes qui nous arrivent de France et qui nous apprennent les terres prêtes, qui nous apprennent le jardin mille pas et qui viennent nous renseigner sur l'art du jardin vertueux. On a aussi invité les agronomes, les traditionnels, on va dire comme ça, et les agriculteurs guyanais. Donc on a mis tout ça ensemble et ça s'est bien passé. Hein. Et en tout cas, ils nous ont sorti ces 20 mètres carrés, à 30 mètres carrés de jardin. Donc pour y planter ces plantes amérindiennes, ces plantes américaines en fait, que sont la tomate, le piment bien sûr, le potiron, la courge, le melon, le haricot, le maïs. Donc on oublie, hein, mais tout ça, ça vient d'ici. Donc on essaie de refaire ce jardin, à l'ombre des papayers, à l'ombre du corossol et du roucou. On a ouvert il y a 2 ans. Tout le monde était là, belle fête, belle cérémonie, belle ouverture. Et maintenant, il faut fonctionner. Et là, c'est une autre histoire. Ouais. Et là, c'est... Alors, on arrive à une année blanche un peu en Guyane, hein, puisqu'il y a eu la refonte de la collectivité unique. À partir... Donc, pendant 1 an, 2 ans, ça a dysfonctionné. Ce n'est pas encore en plein fonctionnement. On a eu les fonds européens, les programmes européens qui sont arrêtés sur 2 ans. Donc, avant de relancer la deuxième campagne, ça se met juste... Donc, on a eu 2 années blanches qui sont mal tombées. Ouais. Donc là, on est limite, donc on attend. Mais on a un très bel... dynamique qui se produit avec la DAC, avec le ministère de la Culture. Ouais, ouais. Donc la DAC Cayenne, et qui fait tout ce qu'il faut pour qu'en fait, à terme, avoir une habilitation centre d'art contemporain. Donc nous, on a une programmation sur 10 ans, si on veut. Franchement, ce n'est pas les idées qui manquent. Hein. On a quand même 25 années de pratique des cultures de l'Ouest, de Guyane et de la grande région. Jérémy, comment vas-tu? Tu vois, j'ai vu que tu m'avais appelé. Donc Jérémy qui lui-même présentera, je te fais la bise, qui lui-même présentera l'œuvre de l'enfant, qui a à voir avec cette expo-là.
Oui, je t'ai ramené des photos d'ailleurs que je vais retrouver.
Donc c'est le papa dont le garçon et la fille ont été invités par Edson Ferreira Moraes, qui fait l'expo dans l'expo. Et donc il y a l'expo dans l'expo, dans l'expo, l'armoire dans l'expo, dans l'expo. Donc on est en abîme là. Alors, les enfants, c'est 2 maîtres en Lego qui créent du Lego sans s'arrêter. Tu sais, il doit revenir me donner les noms de ces machines de guerre, là. Parce qu'à part la machine à remonter le temps, les autres, j'ai pas suivi. c'est des engins de destruction massif. Attends. Voilà, c'est ça que je veux. Il me faut ces textes-là. Chasseur inconnu en position atterrissage. En position vol-combat. Oh, Non, t'es mal barré avec des enfants comme ça, là, franchement.
J'ai juste l'impression d'être tombé dans une mine.
Ici?
Ah, ça, c'est une mine.
C'est un peu une mine, ouais.
Non, donc c'est une sélection, il y a 500 objets, une sélection des productions ces 30 dernières années. Il y a des objets qui ne se font plus. Et donc on a bien affaire à une production faite pour être vendue. Donc c'est des objets destinés à la vente, mais quand même avec des pièces utilisées dans les maisons, en famille, au village. Donc toute cette statuaire faite par les sculpteurs Nengue de Bordeaux, qui n'a rien à voir avec un art vernaculaire Saramaka Unjuka, puisque le masque, la ronde bosse, la figure, donc les personnages qu'on voit là-bas, les portraits, ça n'a rien à voir avec un art strictement Nengue, hein, marron. Donc c'est d'inspiration africaine pour servir la demande d'amateurs et de touristes qui ont besoin de... qui aiment retrouver un petit peu cette expression africaine chez les Noirs de Guyane. Donc on arrive à ces confrontations comme ça un peu particulières.
Donc ils se mettent à produire ce genre de forme pour satisfaire
complètement
la projection.
Une demande. Ouais. Effectivement, inévitablement. Donc au départ, ça commence il y a une cinquantaine d'années. C'est Saramaka qui lance ça dans les années 50-60, depuis le Suriname et depuis ici en bord de route, avec le petit bestiaire, souvenir de Guyane. Donc c'est à l'époque, ils font le tatou. Là, vous avez une quinzaine de tatous, de modèles de tatous. Et il y a une forme ancienne. C'est celle qu'on voit en bois tendre, là. Après, ils se sont mis au bois précieux. Parce que le bois précieux, c'est une conception européenne, finalement. Le bois, le beau bois de Guyane. Eux, ils connaissent les bois durs, les bois tendres, les bois qui résistent à l'eau, les bois qui se sculptent bien, les bois qui ne fendent pas, les bois qui ont une texture, une densité. Et ils l'utilisent, ouais, par rapport à la qualité. Mais par rapport à l'esthétique, les Saramaka l'utilisent effectivement. Donc les Saramaka, dans leur production artistique, n'utilisent pas la peinture. Et quand vous allez en pays Saramaka, sur la Suriname River, donc tous les frontons, les pignons de maison, les maisons ornées sont sculptés en bas-relief, dans le grand art des marrons. Mais ce n'est pas peint comme on trouve en pays de Juka et Aluku, qui eux peignent leurs façades. Par contre, ils utilisent des bois de couleur pour faire des espèces de marqueterie magnifiques, avec un travail d'ébénisterie, un travail dans les détails, dans les formes et dans les ornements, c'est un truc prodigieux. Et là, ils utilisent des bois de couleur. Donc c'est c'est effectivement la version colorisante, coloriste du bois qui est utilisé pour donner, pour faire des variations, pour faire des... Voilà, pour nuancer la sculpture. Donc le tatou, pour en venir au tatou, c'est celui qu'on voit là, qui est la vieille forme ancienne des années 50-60. Donc les Juka Kotika, démantèlement des camps 86, ils commencent à produire eux-mêmes en bord de route, même si l'armée leur interdit de sortir du camp à l'époque. Et eux-mêmes vont produire, après ce bestiaire, vont produire ces anthropomorphes là-bas, la statuaire, les masques, et tellement d'autres choses. Ces pagaies, par exemple, c'était dans les camps, c'était produit dans les camps en 87. Donc c'est les Kotika qui l'ont fait. Et ça, elles ne se font plus. C'est sur le modèle ancien de la pagaie.
Quand on regarde la feuille de salle, là, il y a une espèce de mélange entre des pièces anonymes et puis il y a des pièces où il y a des noms. Comment ça se passe, ça? C'est quand tu connais qui...
Voilà, ouais. Donc en général, moi je m'attache à travailler avec des auteurs avant de travailler avec des objets. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes, les personnalités créatrices, les personnalités artistiques. C'est ça qui nous intéresse à chercheurs d'art quand même. Et après, bien sûr, il y a les objets, il y a les productions. Donc en règle générale, à chaque fois, on a les personnes. Sauf que moi, en 30 ans d'achat, de commandes, il y a des personnes que... Voilà. Non, mais j'ai toujours eu des aléas pour gérer mes inventaires quand même. Et j'ai oublié certaines personnes. Et d'autres fois, dans certains carbets de bord de route, les personnes n'étaient pas indiquées. Puisqu'il y a tout un trafic quand même. Hein. Les revendeurs achètent à des ébauches qui sont retravaillées. Ouh là là, c'est compliqué. Le réseau de vente et de production, c'est un réseau très construit, très... Et puis, bien sûr, tous les vieux objets trouvés dans les... Par exemple, en 16, on a une planche à laver trouvée dans une vieille maison créole. qui doit dater peut-être des années 30, 40. Une planche à laver. Et c'est une pièce très importante. C'est un bout de bois. Hein. C'est une planche avec vaguement deux, trois sillons. En fait, à l'analyse, en haut, il y a une planche à laver plus contemporaine où on voit bien le trait de scie qui fait le plateau avec les rainures pour frotter le linge et extirper du linge mouillé la crasse. Sauf que, et la planche est ornée. Est ornée dans son contour. Hein, tu vois le petit bois qui est travaillé sur les côtés, qui la tient au pied. Et dans certains modèles de planches à laver, tout est orné. C'est-à-dire qu'on a des très belles sculptures, etc. Mais les rainures sont des rainures. Sauf que celle du bas, les rainures sont déjà une sculpture. Une composition sculptée, comme on les retrouve dans ce plat havanais. Ça veut dire qu'un des préceptes de l'esthétique des noirs marrons dans la sculpture, c'est que toute fonction d'usage est forcément ornée, esthétisée. Et avec la grage, toutes les petites aspérités du métal qui permettent de grager, de râper le manioc, forment un dessin. Et là, on a la Kalachnikov de Rambo. Bon, après le modèle, le thème et l'inspiration... Elle est mondialisée, et elle est populaire et elle va dans tous les sens. Hein. Donc on aura compris un peu que les thématiques, elles s'écartent des visions très communautarisantes qu'on aime bien trouver dans les musées d'ethnographie, entre autres, et en Guyane aussi. Donc là, on n'a pas affaire avec des ensembles qui parleraient de l'art amérindien, de l'art nengué ou de l'art créole. On a des thématiques diverses et variées qui reprennent ou l'usage, ou le matériau, ou l'aspect purement formel, la couleur. On a un ensemble qui s'appelle Bromiki, les fleurs, riches en couleurs, ouais. Où on trouve toute la production d'une dame, une vieille dame, qui me produit depuis 15 ans maintenant, assidûment, ces espèces de petits objets, qui sont faits avec des matériaux de récupération, des déchets. Donc ici, c'est des bouteilles, des vases, des espèces de bibelots, ouais. Et qu'elle ornemente sur une manière caligna, puisque c'est une vieille dame amérindienne. Et donc pomponnée avec des plumes, avec des fils de couleurs, des festons de couleurs. Et là, j'ai sorti que les fleurs et les arbres. En haut, dans les collections, il y a 200 pièces qui parlent du bestiaire, des poupées, des hommes, des embarcations. Donc tout un monde comme ça qu'elle a inventé. Victorine, la vieille dame, reprend tous les ornements du costume caligna, pompons, festons, broderies pour faire ses fleurs.
Peut-être tu peux juste dire un mot de cette espèce d'hôtel en carton, pyramide aztèque, je ne sais pas.
Ça fait deux fois, entre hier et aujourd'hui, qu'on me parle d'une pyramide tombeau avec qui aurait une fonction religieuse ou ouais. Mortuaire. On m'en a parlé hier encore. Et la personne demandait si c'était le fait d'Amérindiens.
Ah ouais.
Donc ils ont carrément vu un rapport avec les pyramides mayas. Donc l'artiste, c'est le dernier artiste de la route de l'art. Il se trouve à Saint-Jean, au bout de la route. Donc au bout de la route, il y a lui. Donc il investit une espèce de grand local en friche, l'ancienne usine qui produit de l'électricité à Saint-Jean, en friche. C'est grand, c'est très volumineux. Et il commence à récupérer, il y a une quinzaine d'années, tous les déchets, les rebuts, tout ce qu'il trouve. Et il achemine ça. Et il remplit. Et là-dessus, il procède à une remobilisation de ses déchets. Donc il est plasticien. Il est peintre aussi. Anciennement prof de maths. Et donc retiré dans ce bout du monde, si on veut. Et il reconditionne ses déchets. Alors, avec beaucoup de cohérence... D'abord, il a tous ces empaquetages qu'il appelle des tableaux, qui sont scotchés là, qui sont, donc ils appellent ça les tableaux. Ces espèces de, alors là-dedans, il y a des œuvres, il y a des productions à lui.
Dedans,
oui. Dedans. Et après, donc on est plutôt dans des aplats. Hein. Et après, il y a les volumes. Et il récupère des contenants naturels. Alors, dans les contenants, il y a la cagette, le cajot, la caisse, la tour d'ordinateur. Et c'est pour ce qui est apparent ici. Et en dehors, il y a après les brouettes, les bacs de frigo, les valises, d'autres contenants qui chargent, encore une fois, et qui re-scotchent avec de l'adhésif. Des adhésifs de couleur, des adhésifs. Et une fois qu'il a ça, là, il en a fait une pyramide. En fait, une pyramide qu'on intègre. Voilà, il suffit de rentrer à l'intérieur, il y a une chaise, un bureau. Et il s'est installé là. Donc les premiers temps, il était là, installé, il dormait là aussi. Et il faut suivre un petit peu le film qu'on a fait de lui dans son atelier, où il essaye d'expliquer sa démarche. Moi, je trouve que c'est un acte artistique majeur, de mon point de vue, et qui dit tellement de choses au bout de la route, sur le bord du grand fleuve, du Maroni, qui charrie, tout près du cimetière des relégués. Donc ces bagnards qui ont été relégués il y a un siècle, et donc qui faisaient une double peine, toute une histoire, etc. Donc dans ces lieux de perdition, d'histoire, il réopère encore ça avec des matériaux. Ces fins de culture, donc on trouve plein de livres, il y a des espèces d'albums, des catalogues, des objets, des récipients, des flacons, des déchets, des rebuts de vie. La première histoire du Havre, les mémoires de Guillaume de Marseillaise, les terres nevasses de Anita Conti, c'est des livres qui agrémentent les marches de la pyramide. Mais ça va, c'est un peu contingenté, ça ne salit pas trop le reste, ça reste propre. Parce que ce n'était pas évident.
J'imagine.
D'avoir un ouvrage qui se tienne au milieu de 400 autres ouvrages d'art. Alors eux, c'est ceux que tu entends, là, ce sont les merles. Moi, je les appelle les merles. C'est une espèce d'oiseau noir qui est apparu il y a une vingtaine d'années.
Qui n'était pas là avant.
Je crois qu'ils viennent des Antilles. Ouais. Parce que moi, je les ai vus à Rochambeau il y a 25 ans. Et puis au Palmiste, et puis à Sinamari, et puis maintenant ils sont à Mana depuis une dizaine d'années. C'est un oiseau très désagréable, arrogant, voleur, agressif. Et là tu les entends, en fait, il y a un petit qui apprend à voler. Ils sont en train de l'accompagner là. Donc là, si tu t'approches trop près du petit, l'oiseau, les parents vont venir te fondre sur toi comme ça, à coup de bec sur le crâne. Les gens sont très connaisseurs des oiseaux ici. Hein.
Ouais.
Donc ils élèvent des 5, 6, 7 variétés d'oiseaux chanteurs qu'ils capturent, qu'ils élèvent en captivité aussi, et qui font chanter.
C'est des compétitions, quoi.
Ah oui, ils font les concours, bien sûr. Ils les entraînent, ils font des sons, ils enregistrent des petits CD qui leur passent, donc c'est tout un entraînement. Et il y a des concours. Brésil, on fait ça au Brésil, Suriname, Guyane française. Je crois bien qu'à Georgetown, ils font ça aussi. Donc c'est la picolette.
La picolette.
Entre autres, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Lui, alors les lézards, ça, c'est encore autre chose.
Ouais.
Les lézards qui sont mes ennemis du jardin précolombien. Là. J'arrive pas à faire pousser maricots, ils les mangent. Ah non, c'est la jungle ici, dans le jardin. C'est...